C'est Sporama qui commence, Eric Manilakiza avec vous. Deuxième émission de 2020. Amine Birouk est avec moi. Il est au Maroc. Jude Valentin Ngoué est également avec nous. Élisée Onkpatine. Voilà nos consultants sportifs qui vont nous aider à comprendre davantage les enjeux derrière les différents événements sportifs du week-end. On n'a pas eu grand-chose sur le continent africain. Nous allons nous focaliser sur le football européen, la Première Ligue en Angleterre, la Liga en Espagne, et on ira aussi à Paris. Mais Jules, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Amine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Voilà, il n'y a pas eu grand-chose sur le continent, mais il y a cette préparation de l'attribution du Ballon d'Or africain. Les dernières nouvelles?
Les dernières nouvelles, c'est qu'il y a des répétitions qui sont toujours d'usage avant cette cérémonie, des infos qui filtrent et qui indiqueraient que Sadio Mané remporterait le titre pour cette édition. Mais attention, méfiance, parce que l'année dernière, à cette même date, à Dakar, on avait eu la même information qui avait filtré et finalement le jury avait accordé le ballon d'or à Mohamed Salah. Cette fois-ci, les raisons sont beaucoup plus évidentes de donner la victoire au joueur sénégalais, étant donné son influence sur le jeu de l'équipe de Liverpool, les titres qu'il a remportés avec les Reds, et surtout ce qui pourrait déterminer et départager les deux adversaires et néanmoins coéquipiers et amis, c'est le fait qu'avec le Sénégal, Sadio Mané a été beaucoup plus influent lors de la dernière CAN, atteignant la finale de la compétition, contrairement à Mohamed Salah qui a vu l'Égypte échouer à 8e de finale de la compétition. Il y aura d'autres récompenses qui seront attribuées, et puis surtout en marge, la réunion du comité exécutif de la CAF pour de nombreux sujets, notamment valider la date ou la nouvelle date pour la CAN 2021 qui a été attribué au Cameroun et qui devrait être entre le 15 janvier 2021 et le 14 février de la même année. Il va falloir rester au plus près de l'information pour pouvoir nous assurer de la chose, voir également où en sont les travaux des stades au Cameroun parce que il y a beaucoup de retard, et savoir si le Cameroun est déjà capable d'abriter le CHAN qui aura lieu en avril le prochain. Visiblement ce sera très juste, mais visiblement aussi il y a encore quelques réserves par rapport à la situation de ces stades et de ces infrastructures. Donc autant de sujets, en attendant bien évidemment qu'on puisse avoir toutes les informations disponibles concernant cette réunion qui aura lieu en marge de cette remise des prix de ces awards du football africain.
Jules?
Oui, bien sûr. Cette distinction de meilleur joueur de l'année est attendue sur tout le continent. Mais il faut dire que si Sadio Mané est favori, et disons que et c'est parce qu'il a fait une année excellente et que c'est l'année qu'on récompense. Mais il est arrivé que souvent le jury s'attarde sur d'autres critères, et comme par exemple, et souvent les fins de parcours influencent également les jurys, ou alors ils s'attardent sur d'autres compétitions comme la CAN, et au lieu de... disons que de se baser surtout sur les résultats de la compétition la plus relevée en matière de football dans le monde, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Et donc, on n'a pas de surprise. Mais je crois que ne pas donner le ballon d'or à Mané va peut-être porter préjudice aux joueurs qui vont se distinguer par la suite, et on aura toujours tendance à vouloir lui donner un ballon d'or de rachat. Parce qu'il faut le dire, ces 5 dernières années, c'est un des joueurs les plus marquants du continent.
Nous allons en Angleterre justement pour parler de l'équipe de Mané, Liverpool, qui a réussi l'exploit de battre son rival Everton 1-0 avec les plus jeunes joueurs de son effectif. C'était lors du troisième tour de la Coupe d'Angleterre hier dimanche. Et de son côté, le Tottenham de José Mourinho a été tenu en échec à Middlesbrough. Un but partout. Amine, cette nouvelle performance majeure de Liverpool avec l'équipe bis, et on a vu notamment le jeune Harvey Elliott qui a 16 ans.
Beaucoup beaucoup de jeunes dans cette équipe de Liverpool. Mais on avait déjà vu ces jeunes, ces gamins, lors de la Carabao Cup, et notamment d'un match à retournement impressionnant contre Arsenal, qui s'était terminé sur un score de 5-4. On les a vus aussi lorsque Liverpool avait des duties, puisqu'ils devaient participer à la Coupe du Monde des clubs la veille d'un match de Carabao Cup, et Jürgen Klopp avait fait son choix de laisser les jeunes disputer une compétition, quitte à subir une lourde défaite devant Aston Villa sur le score de 5-0. Et ces jeunes-là profitent de cette compétition, du fait que l'entraîneur allemand fasse un peu de turnover, parce qu'il y a des priorités tout au long de la saison, pour se distinguer. Le joueur le plus âgé, c'était Adam Lallana, qui se sentait comme une baby-sitter. Dans ce derby, on a vu quasiment l'équipe A d'Everton face aux jeunes de Liverpool, et c'est les Reds qui l'ont encore emporté avec ce but d'un gamin de 18 ans, un gamin qui est appelé à un avenir très brillant, se montre aussi sérieux et aussi discipliné. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'effectif de Liverpool, c'est 40 joueurs, dont près de 19 joueurs de moins de 23 ans. Autant dire qu'à Liverpool, on pense à l'avenir. On pense au présent, avec des joueurs qui sont capables de se distinguer dans toutes les compétitions, et notamment le trident Firmino Salah Mané, mais on ne lésine pas sur l'avenir proche, car à un moment ou un autre, ces joueurs seront peut-être convoités par d'autres gros cylindrés, et il se pourrait qu'ils puissent donner au club une grosse plus-value, et puis d'autres arriveront, parce que l'esprit Red est éternel depuis les années 70 du siècle dernier.
Jules, Liverpool qui veut donc assurer la continuité de son succès. Cette équipe n'a pas encaissé un but depuis près de 9 heures de jeu, toutes compétitions confondues. C'est impressionnant.
Oui, bien sûr. Dans Liverpool, qui a une armature très solide, équilibrée sur toutes les lignes et surtout s'adossant sur une défense vraiment de très haute qualité, et une récupération formidable dès le milieu de terrain et en attaque des flèches qui font la différence souvent pendant les rencontres et le plus souvent d'ailleurs au Money Time, donc dans les dernières minutes de la rencontre, au temps additionnel, là où le mental est très important. Donc c'est une équipe qui est pour le moment sur le nuage, mais attention, le championnat d'Angleterre n'est pas la Ligue des champions. On a vu Barcelone dominer des pieds et de la tête la Liga, et le Real être deuxième ou troisième, mais gagner la Ligue des champions 3 années de suite. Donc, quand il s'agira de remonter sur le ring, pour ainsi dire, pour la Ligue des champions, ce sera une autre compétition.
Il y a Ahmedine qui vient de nous rejoindre. Ahmedine, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Afrique et même à tous les sportifs du monde.
Voilà, mais je vous entends de très loin, alors que vous êtes très proche de Washington.
Oui, je suis à Columbus, c'est pas tellement loin.
Oui, alors on parle de la Coupe d'Angleterre. Vous avez vu le match Tottenham contre Middlesbrough, et on a vu que l'entraîneur José Mourinho a apparemment pris au sérieux son adversaire, puisqu'il a aligné son équipe type. Mais il y a quelques cadres qui manquaient. C'était Lloris, Ndombele et Kane.
Oui, Eric, vous avez raison. Mais Mourinho a raison, puisque l'objectif maintenant de Tottenham, c'est de sauver la saison, puisque Tottenham est incapable de gagner cette année le championnat, qui est dominé de la tête et des épaules par Liverpool, qui est en train quand même de battre tous les records, et Liverpool qui veut quand même faire ce que Arsenal avait fait. Donc comme Mourinho est arrivé à la place de Pochettino, Mourinho veut gagner un trophée. Comme c'est un peu impossible aussi de gagner la Ligue des Champions et le championnat, il faut baiser sur les coupes. Mourinho, c'est un entraîneur très rusé, il le fait. Il l'a fait avec Manchester United, où il a gagné quand même la Coupe Europa que Manchester n'avait jamais réussi à gagner. Donc, Mourinho, en grâce à sa tête, mise maintenant sur les coupes, que ce soit la Coupe d'Angleterre ou la Super Coupe. Maintenant, il faut faire tout pour gagner. C'est pourquoi il a non seulement misé sur son équipe, mais en je crois que c'est bonne guerre. En Mourinho veut tout simplement sauver d'abord la saison de Tottenham qui était dans la rue. Cette équipe qui avait joué quand même pour la première fois de l'histoire la finale de la Ligue des Champions. Et cette année, ce n'était pas ça. C'est pourquoi Pochettino est parti. Lorsque Mourinho est venu, d'abord, c'est de stabiliser l'équipe, faire en sorte que Tottenham ne soit pas ridicule en championnat, jouer à fond ses chances, que ce soit au niveau de la Ligue des Champions, mais surtout sur les Coupes Eric.
Merci, Amédine. Amine, il y a aussi Manchester City qui aura sans doute à cœur de conserver les deux coupes nationales qu'il détient, à commencer par la Coupe de la Ligue.
D'autant plus que le club mancunien est largué en championnat, que Pep Guardiola semble avoir abdiqué toute chance de conserver ce titre acquis de haute lutte la saison dernière face à Liverpool. Cette année, le parcours de Liverpool est impressionnant. Les faux pas de Manchester City font qu'aujourd'hui, le club est obligé de se focaliser sur trois autres objectifs. L'objectif principal, c'est de gagner la Ligue des Champions, c'est le titre qui manque au palmarès de Manchester City, c'est le titre pour lequel le club a investi autant de millions, voire de milliards d'euros, et paye les deux coupes nationales qui semblent, je dirais, à la portée du club entraîné par Pep Guardiola. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui sont en lice et qui pourraient également aspirer à ce titre, à commencer par Liverpool, Tottenham, en attendant peut-être Manchester United qui disputera un replay face à Wolverhampton, et puis n'oubliez pas aujourd'hui une équipe d'Arsenal qui n'a peut-être que les coupes nationales pour pouvoir, ou la coupe nationale pour pouvoir sauver sa saison, avec un début qui sera attendu ce soir contre Leeds United entraîné par un certain Marcelo Bielsa.
Alors, Man City va affronter à Manchester United en demi-finale, ce qui est aussi un vrai test puisque on ne peut pas oublier la défaite en championnat de 1 à
oui,
domicile.
En Carabao Cup, en League Cup, évidemment, ce sera un duel attendu. Personne n'attendait le sursaut d'orgueil de Manchester United en championnat et cette victoire qui a permis à Solskjaer en partie de sauver sa peau. Mais c'est le titre le plus proche pour l'instant pour Manchester City, celui qui semble à la portée du club. A priori, les hommes de Pep Guardiola ne vont pas refaire deux fois la même erreur et on verra s'ils sont capables dans cette compétition qui avait son importance dans le calendrier anglais, qui l'a de moins en moins dans la mesure où la Ligue des Champions vampirise toutes les compétitions, que le championnat, la Première Ligue est également une priorité pour tous les clubs anglais, donc il y a toujours un ordre de priorité et dans les quatre compétitions que disputent les grands clubs du championnat anglais, il y a évidemment une dernière catégorie à laquelle appartient la League Cup ou la Carabao Cup du nom du sponsor de cette compétition.
Alors, il y a Pep Guardiola qui a prédit que le match sera assez similaire, même si ce sera différent à Old Trafford. Mais il dit que c'est une équipe faite pour courir. Quand ils peuvent courir, c'est l'une des meilleures équipes, et pas seulement d'Angleterre. Jules, votre commentaire par rapport à la réaction de Guardiola?
Oui, mais Guardiola, tout le monde le connaît. Guardiola, c'est un entraîneur offensif qui tient le ballon, qui a une équipe qui joue un jeu très spectaculaire et efficace. Et ma foi, pour laquelle la devise est marquer un but de plus que l'adversaire. Donc c'est ce qu'on attend de lui dans les rencontres, mais malheureusement il peut arriver que face à des équipes très tactiques, la mécanique s'enraye. Alors face à Manchester United, il aura la chance de rencontrer une équipe joueuse et donc je pense que City sera réellement dans le match, mais tout dépendra du scénario du match, qui va marquer le premier au moment sensible de la rencontre et tout cela, les deux effectifs étant particulièrement jeunes, en particulier celui de Manchester United, dont nous aurons un match agréable et spectaculaire.
Amédine? Amédine?
Oui, Eric.
Que peut-on retenir de la Liga?
Bon, la Liga, on sait que cette année aussi, c'est Barcelone et le Real de Madrid qui se battent pour quand même remporter ce championnat. Mais on a vu que depuis que Zidane est là, hein, mais le Real de Madrid ne lâche rien du tout et Barcelone est en train de marquer un peu le pas, puisqu'on a vu Barcelone qui a été tenu en échec lors du derby catalan par l'Espagnol de Barcelone. Donc ce sera un championnat vraiment intéressant avec un mano à mano avec ces deux grandes équipes. Comme vous avez l'habitude de dire en anglais, en tout cas, c'est intéressant au niveau quand même du public et des amateurs du ballon rond de suivre quand même ce duel à distance entre le FC Barcelone et le Real de Madrid.
Amine.
La rivalité entre les deux clubs cette année est beaucoup plus évidente. Lors des deux dernières saisons, le Real Madrid avait abandonné tous ses rêves de jouer à fond la Liga quasiment au mois de décembre-janvier. Cette année, une des certitudes du club merengue, c'est d'avoir une défense solide, puisque Thibaut Courtois n'a concédé que 12 buts lors des 19 matchs disputés en Liga. C'est la meilleure série défensive du Real Madrid depuis la saison 87-88. Là où le mal blesse, c'est que le Real ne marque pas autant de buts. Le club est orphelin depuis le départ de Cristiano Ronaldo d'un canonnier et d'autant plus que Karim Benzema est blessé, s'est blessé lors de la dernière rencontre de Liga et sera absent lors de la Supercoupe qui débute en milieu de semaine en Arabie Saoudite et à laquelle prendront part le Real, Barcelone, l'Atlético de Madrid et Valence dans une compétition à 4. Barcelone, cette saison, marque le pas, on le sent, puisque le club d'habitude qui ne perdait qu'un à deux matchs par saison a déjà concédé beaucoup de points. Preuve en est le dernier match contre la Lanterne Rouge d'Espagnol de Barcelone où le Barça, après avoir monter un zéro adverse grâce à des buts de Suarez et Vidal, s'est fait rejoindre sur le fil dans les dernières minutes. Ter Stegen va manquer la Supercoupe d'Espagne. Il sera peut-être absent lors des prochaines rencontres de championnat pour cause de blessure, une tendinopathie. Et puis le Barça est un peu tributaire du rendement du binôme Suarez-Messi, surtout Messi. Lorsque Messi est là, tout s'éclaire dans le jeu du Barça. Lorsque Messi disparaît en cours de match ou n'est pas très inspiré, le club a du mal à fonctionner sur le plan offensif. Et puis aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est au niveau du milieu de terrain parce que Busquets n'a plus le même rayonnement. Vidal est un joueur de caractère, de muscle, mais ce n'est pas un joueur très technique. Et puis, Frankie de Jong a du mal peut-être à s'adapter à son nouvel environnement espagnol.
Jules, on va parler de Zlatan Ibrahimovic qui est arrivé à Milan. Est-ce qu'à son âge, tu penses qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe?
Oui, bien sûr. Le plus souvent, ces comebacks-là concernent généralement les grandes compétitions qui sont très courtes, comme la Coupe du Monde ou autre, où un joueur expérimenté peut apporter un plus rapidement, jouer, avoir un temps de jeu plus très limité, mais pendant lequel il est efficace. Bon, alors là, pour un championnat ou pour 6 mois, mais c'est quand même assez long. Seulement, Zlatan apporte quelque chose à Milan, c'est le fait que Milan manquait d'un fixateur au niveau de son attaque centrale qui peut, disons, amener deux défenseurs à être toujours permanemment sur lui et libérer un peu les coéquipiers. Je crois que c'est dans ce sens-là que l'entraîneur a fait venir ce géant dans tous les aspects du terme et qu'il aimerait, disons, construire l'équipe en fonction de certaines de ses qualités.
En France, on a vu le PSG qui se démarquait, sont des grands noms, Neymar, Mbappé, Icardi, Navas, Di Maria, Marquinhos et Verratti, mais le PSG joue avec une équipe très faible. On a vu tout de même Cavani marquer à deux reprises. Amédine.
Donc, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui s'est promené, hein, qui est à zéro. Il fallait jouer parce que devant eux, il y avait des amateurs. Mais il y a eu un fait quand même, puisque lorsque le Paris Saint-Germain menait par 1-0, cette équipe amateur a eu l'opportunité de revenir dans le match. Malheureusement pour eux, ils ont raté un penalty. Et sur le penalty, on compte. Et le Paris Saint-Germain a marqué le deuxième but, qui fait que si tu posais plus forte que toi, tu peux résister. À chaque fois qu'il n'y a pas l'écart, quand c'est 0-0, tu peux résister. Quand c'est 1-0, tu peux résister. Mais dès l'instant qu'il encaisse le deuxième but, il s'est passé. Mais il faut le dire, le Paris Saint-Germain est devenu une très, très grande équipe au niveau du continent. Le Paris Saint-Germain qui a des ambitions de remporter quand même la Ligue des Champions. Donc, le Paris Saint-Germain n'a pas.
Merci Medine. On va terminer avec l'ancien gardien de but de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, Hans Tilkowski, qui est décédé à l'âge de 84 ans. des suites d'une longue maladie, restera surtout connu pour l'affaire du but fantôme, l'un des plus controversés de l'histoire du football, encaissé lors de la finale du Mondial 66, perdu 4-2 en prolongation contre l'Angleterre, un match qui fait toujours causer en Allemagne. Bien, c'était à la 11e minute des prolongations et le score était de 2-2. Le 30 juillet 66 plutôt, la frappe de l'attaquant anglais Hurst qui frappe la barre transversale du but de Tilkowski, puis rebondit au sol, devant ou derrière la ligne, malgré les protestations des joueurs allemands. L'arbitre suisse, après avoir pris l'avis formel de son assistant, accordera le but qui mènera au triomphe des Anglais. Ce but aura traumatisé Hans Tilkowski, qui avait du mal à évoquer cet épisode douloureux. « Je mourrai avec la certitude que le ballon n'était pas entré », avait-il déclaré. Amine, Hans nous a quittés. C'était sa dernière phrase. Il est resté toujours convaincu que le but n'était pas le vrai.
Et si la VAR avait existé en ce temps-là, on n'en serait pas encore en train de parler de cette histoire qui date de 1966, c'est-à-dire de près de 54 ans. Mais certainement, ça restera une des actions les plus controversées de l'histoire de la Coupe du Monde, comme la main de Dieu de Diego Maradona. On résume l'action, la frappe du joueur de West Ham, Geoff Hurst, qui heurte le bas de la transversale qui rebondit sur la ligne. Le ballon a-t-il entièrement franchi la ligne? L'arbitre suisse, M. Diest, qui l'accorde après consultation avec l'arbitre soviétique de l'époque, M. Bakramov. Les Allemands sont toujours convaincus que le but n'est jamais rentré, y compris Hans Tilkowski, qui était peut-être le protagoniste le plus proche de l'action. Et puis, les Anglais sont toujours en train de jurer leur grand Dieu que ce but a bel et bien été accordé parce que le ballon est rentré. Donc, c'est une des actions qui aura marqué l'histoire du football mondial. Elle est beaucoup moins, peut-être beaucoup plus décisive parce que c'était en finale de Coupe du Monde, mais beaucoup moins flagrante que lors du récent Angleterre-Allemagne disputé en Coupe du Monde 2010, où le but, où la frappe d'un joueur anglais est rentrée de quelques centimètres. Visiblement, ce but aurait dû être accordé et changer le cours de cette confrontation pour l'équipe entraînée par Fabio Capello à l'époque, mais les choses sont allées différemment. Aujourd'hui, avec la technique de la VAR et la goal line technology, on peut juger sur pièce si un ballon est rentré entièrement et si on peut l'accorder ou pas. En 1966, la technologie était tout autre et on ne pouvait visiblement pas juger à l'œil nu si ce ballon a franchi bel et bien la ligne. Le bénéfice du doute aurait pu être accordé aux Allemands à l'époque. L'arbitrage était un peu plus orienté en faveur des Anglais lors de cette Coupe du Monde qu'ils devaient absolument gagner. Allez à Jacques Taïs.
Jules, la polémique reste entière jusqu'à aujourd'hui sans que les spécialistes n'arrivent à s'accorder sur le fait que oui ou non la balle a vraiment franchi la ligne. Et l'événement a tellement marqué les esprits en Allemagne et en Grande-Bretagne qu'il est entré dans le langage courant. Un Wembley Tor en allemand, littéralement, but de Wembley. Vous vous rappelez de ce but de Wembley, Jules?
Comme si c'était hier, c'était tellement clair. En fait, il faut dire qu'à l'époque, j'étais pour l'Allemagne. Bon, alors, je vous dirais que ce qui montre que les Allemands avaient quand même raison de s'inquiéter, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, et l'arbitrage, un certain arbitrage maison qui accompagnait l'Angleterre pendant cette Coupe. Vous pensez bien, le pays du football, mais qui n'avait jamais gagné la Coupe du Monde par sa faute parce qu'il boudait la Coupe du Monde ou bien la négligeait pendant une période. Bon, alors il fallait absolument qu'elle gagne. Mais pendant cette finale, le but là en particulier a changé quand même la configuration des buts. On s'est rendu compte que la barre transversale ne devait plus être carrée, elle devait être ronde. Donc, quelque part, les Allemands avaient raison de porter des réserves parce que finalement, si on revenait et si on a pu changer ainsi même certains éléments techniques de la rencontre ou alors matériels, c'est qu'on savait qu'il y avait un problème quelque part.
Merci Jules. Hans Tilkowski a donc mis fin à sa carrière internationale 1967 après 39 sélections à seulement 31 ans. Merci Amine Birouk au Maroc pour votre contribution dans Sporama. Merci Jules pour votre participation. Merci aussi à Amédine Si qui se trouve ici aux États-Unis, Eric Maniakiza vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine. Au revoir.
VOA Afrique.